Merci. Donc cette intervention s'intitule « De la nature tragique à la création graciée », avec un sous-titre un peu étrange, la tauromachie comme modèle d'une écologie dramatique. J'ai trouvé un titre plus simple pour les éditeurs, « Le taureau par les cornes pour une écologie dramatique ». Le taureau par les cornes parce que ce que nous allons essayer d'aborder ressemble beaucoup à un taureau sauvage. Et quand je dis cela, c'est en m'inspirant de Nietzsche dans un très beau texte, un de ses plus beaux textes qui s'intitule « Essai d'autocritique ». Vous voyez, c'est avant Ecce Homo, où c'est une autocélébration. Il y a un essai d'autocritique qui paraît en 1886, donc après comme nouvelle préface, on pourrait dire, de La naissance de la tragédie, qui est un ouvrage de 1872. Donc un regard rétrospectif sur sa première œuvre, et il essaye de dire ce qu'il a essayé de penser. La grande question, c'était de savoir pourquoi les Grecs ont eu besoin de la tragédie. C'est ça sa question. Et voilà ce qu'il dit. Ce qu'il me fut alors donné de concevoir, quelque chose de terrible et de périlleux, un problème aux cornes menaçantes. Et pas absolument un taureau sauvage, il renvoie vraiment au taureau bravo de Corrida, hein. Pas absolument un taureau sauvage, en tout cas un problème nouveau. Je dirais aujourd'hui que ce fut le problème de la science elle-même, de la science considérée pour la première fois comme problématique et discutable. La question de Nietzsche, ça a été la relativisation de la science, comme système, on pourrait dire, de contrôle, et la réouverture de la tragédie, ce qu'il appelle parfois un pessimisme, non pas du déclin, mais un pessimisme de la force, un pessimisme, on pourrait dire, de la surabondance de l'énergie et non, vous voyez, de la dépression. On pourrait appeler ça aussi un optimisme du malheur, ce qui est à peu près la même chose. Et sa grande question, c'était l'œil le plus perçant, enfin l'affirmation en fait qu'il donne ici à travers des questions, l'œil le plus perçant n'est-il pas possédé d'une irrésistible témérité qui recherche le terrible comme l'ennemi, le digne adversaire contre qui elle veut éprouver sa force, dont elle veut apprendre ce que c'est que la peur. Que signifie le mythe tragique, précisément chez les Grecs, de l'époque la plus parfaite, la plus forte, la plus vaillante? Donc vous voyez l'idée qu'il y a un rapport au monde où l'on pourrait rechercher le terrible, où l'on se confronte à la peur et où ce qui est en jeu, c'est le digne adversaire qui va peut-être aller jusqu'à la déchirure et qui va, vous voyez, nous ouvrir au tragique. Alors, c'est un problème analogue que je voudrais aborder, justement, un problème aux cornes menaçantes. Ce problème n'est pas pour moi celui de la science, du moins pas entièrement, mais celui de notre rapport à ce qu'on appelle la nature. Aujourd'hui, problème à cornes. Et je vais laisser à dessein pour commencer ce terme dans son ambiguïté. Ma tâche d'ailleurs sera de montrer que ce terme de nature est insuffisant et qu'il faut recourir à celui de création. Une écologie purement naturaliste est, par définition, insuffisante, puisque on ne peut pas partir de la nature pour sauver ou protéger la nature. Il faudrait avoir une position même extérieure à elle. Et donc, il faut passer à une écologie d'une autre forme. Et c'est un problème à cornes menaçantes. Or, vous savez, quand un problème est un problème à cornes menaçantes, il y a deux possibilités. On a tendance à s'en écarter et donc à dire qu'il n'y a pas de problème. Ou alors, on peut aussi vouloir s'y confronter directement. Or, un tel problème est comme un taureau sauvage. On ne peut pas s'y confronter directement. Il faut le torer. Donc, nous allons torer le problème. Et d'ailleurs, la citation de Nietzsche que je vous ai proposée, je l'ai trouvée, enfin je l'ai retrouvée dans un très bel essai de José Bergamín sur la corrida, un texte qui s'intitule le Toreo, question palpitante, et qui voyait justement en Nietzsche un maître de la pensée torera, une pensée qui torait, vous voyez, des problèmes menaçants. Il voyait d'ailleurs aussi un maître en un autre grand philosophe espagnol, on l'oublie, Sénèque de Cordoue. Mais je pense qu'il faudra dépasser le point de vue de Sénèque. Enfin, dernier point, c'est que ce qui est intéressant par rapport à ce problème à cornes, c'est ce que je vais vous montrer, c'est que il n'y va pas à mes yeux que d'une simple métaphore, puisque la corrida elle-même va nous fournir un modèle de pensée. C'est-à-dire que je vais torer avec la corrida elle-même, comme manière, voyez, de penser notre rapport à la nature. Bien sûr que ce qui me fournit un point de départ, c'est la parole de saint Paul aux Romains, 8, 18, 19, 25. Vous connaissez ce terme qui n'emploie pas le mot cosmos, mais le mot ktesis, qu'on traduit par création. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Impatience, vous voyez, deux mots, il y a un jeu, il y a une sorte de paronymie entre les deux termes, voyez, parce que vous avez apokaradokia et de l'autre côté apocalypsis. Vous voyez, cette impatience, ce désir qui est attente d'une révélation, d'une apocalypse. Mot ici, révélation, c'est Apocalypse. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Phrase qui a toujours fasciné Paul Claudel, qui dit que toute créature, même une pierre, même un animal, a quelque chose comme une volonté. Vous voyez, il est dit non pas de son plein gré. Ça ne veut pas dire qu'elle a une volonté, mais il y a quelque chose qui fait que les êtres ont été livrés, il y a quelque chose en eux qui résiste à ce pouvoir du néant. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, c'est étonnant, cette espérance qui est celle de toute la création et pas seulement de l'homme. C'est peut-être l'homme qui la porte en lui de manière consciente, mais il y aurait une espérance de la création, d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Passage très beau, hein, et qui prend justement l'image de l'enfantement comme image générale, voyez, de tout ce qui se passe dans la création. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Donc, vous voyez ici, il y a une souffrance de toute la création. Or, cela ne va pas de soi. Premièrement, que la création souffre et gémisse. Cela ne va pas du tout de soi, comme on le verra. Deuxièmement, que notre souffrance, vous voyez, la souffrance humaine, qu'on peut voir comme une souffrance purement humaine, anthropologique, psychologique, aujourd'hui, on résout nos problèmes, eh bien que notre souffrance ne soit pas seulement la nôtre, mais celle de la création comme telle, dont nous serions les témoins emblématiques et comme la caisse de résonance. Puisque, vous voyez, il y avait cette phrase, hein, la création tout entière gémit, mais et nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir. Et le troisième point, qui est aussi très étonnant ici, c'est que nous sommes responsables pour la création tout entière. Nous gémissons avec elle, mais elle attend notre apocalypse, notre révélation. Et cette manière d'être ensemble avec la création est rapportée à travers un verbe, synodino, un verbe très étonnant, parce que odino, ça veut dire être dans les douleurs de l'enfantement. Mais là, synodino, c'est être dans les douleurs de l'enfantement ensemble. Vous voyez, imaginez comme un homme qui serait vraiment dans les douleurs de l'enfantement avec sa femme, bon, mais qui les vivrait. Alors on a vu ça dans cette image de Saint Jean, justement. Vous voyez, c'était très intéressant. On voyait l'image sur ce manuscrit irlandais de Kells, un Saint Jean qui ouvre les jambes et qui semble avoir une matrice en train de s'ouvrir. Et les douleurs de l'enfantement, voilà, que porte de toute la création, que porte l'apôtre avec lui. C'est ça, si vous voulez, le texte que j'essaye de penser. Maintenant, je vais m'en éloigner, mais je voudrais juste vous dire quelle est mon intention. C'est d'essayer de donner des éléments de compréhension, mais des éléments avec une approche philosophique et pas théologique de ce texte, qui est un texte absolument surprenant, et où rien ne va de soi par rapport, je dirais, à la pensée scientifique, à l'évidence, mais aussi à la pensée grecque. Toujours pour indiquer mon intention, il s'agit de relativiser aussi une certaine violence. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ce qui est à penser, c'est la violence faite par l'homme aux écosystèmes. Et le frère Emmanuel Durand, que certains d'entre vous connaissent, qui enseigne ici à Fribourg, justement lit cette phrase « La création tout entière gémit » comme pouvant être comprise à partir de la crise environnementale que nous vivons aujourd'hui. Il le disait dans sa leçon inaugurale. Cependant, à l'époque de Saint Paul, il n'y avait pas de crise environnementale. Donc ce n'est pas ce dont parle d'abord Saint Paul. Aujourd'hui, on parle de la clameur de la terre, et tout de suite on pense aux problèmes écologiques et aux problèmes de la violence, du bouleversement des écosystèmes par l'homme. Or, la création gémit en dehors même de cela. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut reconnaître qu'il y a eu des extinctions avant ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire l'impact de la vie, du mode de vie industriel de l'homme sur l'environnement. Donc vous voyez que la nature n'est pas dans une logique de simple préservation. Bien sûr qu'elle produit des destructions, et elle n'a pas consisté qu'à préserver. Imaginez que nous ayons un écologiste qui apparaisse à l'époque des dinosaures et qui dirait « il faut absolument tout préserver, laissons le tyrannosaure, le diplodocus », bien, il ne disparaîtrait pas, mais les mammifères aussi n'auraient pas de place pour se développer. Donc vous voyez, il faut bien voir que la logique de la préservation n'est pas directement celle de la nature telle qu'elle nous est donnée à voir. Et en même temps, bien sûr, cette logique est plutôt un désir humain. Il n'y a que l'homme qui se souvienne des dinosaures, il n'y a que le petit homme qui a une nostalgie du tyrannosaure rex au point d'en avoir un en peluche. Et même dans un article que j'avais, un édito de la revue Limite, j'avais employé cette phrase un peu drôle, en disant « ce n'est que nous que le dodo ne laisse pas dormir ». Oui, le dodo a disparu, et ça nous inquiète. Et nous avons des images encore du dodo, et nous nous souvenons du dodo. Deuxième point, vous voyez, la question, c'est que donc la violence faite aux écosystèmes n'est pas que celle de l'homme. Dans la nature même, il y a eu des écosystèmes bouleversés. Deuxièmement, et c'est ça ma question peut-être la plus importante, est-ce qu'il n'y a pas une violence interne à l'écosystème? C'est peut-être la question de Paul. Je m'en réfère à la petite chouette d'une amie d'Olivier Rey. Elle a récupéré une petite chouette, c'est mignon, une petite chouette, c'est tout. Mais de quoi se nourrit-elle? Eh bien, de souris. Donc comment a-t-il fallu faire pour la nourrir? Récupérer les souris que rapportait le chat. Tu me dis si je me trompe dans ce que tu m'as raconté, Olivier, mais enfin, je cite notre conversation récente. Et on voit cette petite chouette prendre un malin plaisir à fondre sur cette souris morte, à la déchiqueter. Et c'est un spectacle assez violent pour nous. Si vous regardez dans les pays asiatiques...
En revanche, on lui donne de la viande, ça ne lui plaît pas.
Non, elle... Il faut déchiqueter, voilà. Ce n'est pas un steak qui marche, vous voyez. Ce n'est pas un problème alimentaire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous apparaît forcément comme une sorte de cruauté. Bon. Alors, est-ce que c'est un anthropomorphisme? C'est une question, vous voyez. C'est nous, peut-être. Il n'y a sans doute pas, en tout cas, de cruauté morale de la part de la petite chouette. Quand vous regardez aussi une pratique très fréquente dans les pays asiatiques, les combats d'insectes qui sont filmés, vous pouvez en voir certains sur YouTube, vous voyez, avec des objectifs macro, et vous voyez, et c'est plus effrayant que le pire des films d'horreur. Vous voyez, une sorte de déchiquetage aussi, des mandibules qui broient d'autres êtres, des poursuites effrayantes. Vous voyez, c'est une sorte de... C'est le contraire, à mon avis, de la corrida, parce que c'était pur exercice de violence à l'intérieur du monde d'insectes, vous voyez. Et vous regardez ça, et c'est vraiment effrayant. Effrayant. Alors, est-ce que c'est notre sensibilité décalée d'aujourd'hui, de moderne? Peut-être. Est-ce que c'est une projection de l'homme sur une situation qui est tout à fait naturelle, et donc pas contre nature, et donc pas violente? Vous voyez? Il y a quand même un problème ici. Et c'est une vraie question philosophique. C'est là notre problème à cornes. Y a-t-il de la violence dans la nature? Que veut dire le mot violence naturelle? Vous voyez, c'est une vraie difficulté à penser. Alors, on pourrait dire, bon, il n'y a pas de méchanceté, d'immoralité, cette cruauté serait simplement un anthropomorphisme, et en même temps, c'est un vrai problème. Et ce qu'on pourrait appeler les nouveaux sentimentaux, allez, les animalistes d'aujourd'hui, les nouveaux sentimentaux, c'est un terme des années 20, même avant les années 20, qui vient d'un grand torero, qui a essayé aussi un grand poète du groupe 27, donc avec Lorca, un grand ami de Garcia Lorca, qui s'appelle Ignacio Sánchez Mejías, qui est d'ailleurs, qui sait de quoi il parle, puisqu'il est mort encore né, après avoir repris la tauromachie après 7 ans d'arrêt. Il pensait l'avoir abandonné pour toujours. Donc vous comprenez, le problème est le suivant, pour le prendre en termes aristotéliciens, ce qui est violent, c'est ce qui est contre nature. Et donc, comment la nature pourrait-elle gémir, vous voyez, de cette violence interne? Non, il n'y a pas de gémissement, c'est normal, c'est son ordre naturel. Cependant, Thomas d'Aquin, quand il réfléchit à Romains 8, 19, va faire une distinction en disant qu'on peut prendre la nature au sens universel, la natura universalis, et la nature au sens particulier. Il va dire que toutes ces imperfections sont conséquences de la mutabilité des choses matérielles, même vivantes, hein, comme la corruption, la vieillesse et autres misères semblables, c'est-à-dire la prédation aussi. Eh bien, toutes ces imperfections sont contraires à la nature de tel ou tel être en particulier, que ses désirs portent à sa conservation, bien qu'elles soient selon les lois de la nature en général. Donc, vous voyez, c'est naturel au plan général, donc c'est pas violent, mais au particulier, c'est une violence. Autrement dit, quand la chouette déchiquette la petite souris, du point de vue de la nature, de l'ordre de la nature, c'est pas une violence. Mais du point de vue de la petite souris, c'est violent. Et il dit, quand même, c'est une violence, puisqu'il reconnaît que c'est ça aussi qui peut être le gémissement de la création. Et donc, il y a quelque chose ici qui est difficile à penser, quelque chose qui est à la fois naturel et violent. Et il y a une difficulté. Comment le comprendre? Est-ce que ça veut dire que le naturel n'est pas tout à fait naturel? Ça montre bien une limite du concept de nature. En tout cas, pris dans son sens universel. Et donc, peut-être, qui nous ouvre à l'idée d'une nature blessée, d'une création blessée. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est difficile à penser du point de vue strictement philosophique. Donc violence et pas violence, car il y a une hiérarchie dans la chaîne alimentaire ou utilitaire qui est naturelle. Cependant, le particulier gémit. Ça me fait penser d'ailleurs à ce qu'on a entendu dans les corridas auxquels on a assisté avec ma femme, qui nous a vraiment touché, ce mugissement du taureau qui agonise. La création gémit, on l'entend hein, dans l'arène. Alors voilà, violence dans la nature. Parfois, de toute façon, le moustique tue l'enfant et donc brise la hiérarchie. Et ça, c'est une violence, voilà, liée à la situation de la nature aujourd'hui. Et puis, cette hiérarchie, ce que ne savait pas du tout Thomas d'Aquin, est vouée, de toute façon, à disparition. Donc, vous voyez, même l'ordre naturel général entier doit disparaître. Et vous voyez, cette idée ne venait pas à l'esprit de Thomas que la natura universalis aille vers la destruction naturellement. Elle allait vers la destruction par l'intervention divine, ça oui. Elle avait une corruption interne, bien sûr, mais une corruption qui impliquait aussi toujours des générations. Sa finitude ne lui apparaissait pas comme nous, comme à nous, vous voyez, comme intrinsèque. Il y a quelque chose qui est une finitude vouée à la disparition totale, indépendamment. Il n'y a plus d'idée que les générations sont participation à l'immortalité, parce qu'on sait que tout cela même est mortel. Et ça, c'est nouveau. Et quand on découvre ça, on peut se demander si la natura ne devrait pas s'appeler la moritura. Ben oui, parce que elle est vouée, ultimement, et sous cette forme dont nous a parlé Hugo, hein, c'est-à-dire la Terre va d'abord devenir un glaçon, et puis après, dévorée par le feu de l'explosion du soleil. Vous voyez, vous avez les deux, c'est bien la glace et le feu, donc c'est... Alors, à longue échéance, mais malgré tout, on sait que c'est la destinée, entre guillemets, naturelle. S'agissant de la nature universelle. Et donc, vous voyez bien que l'enfantement dont il est parlé, ce gémissement, il est lié à cela, et que l'enfantement dont il est parlé est un enfantement nécessairement surnaturel, qui dépasse l'ordre que nous voyons, qui l'excède. Quelque chose qui nous laisse entendre qu'on doit passer par la mort et la résurrection. Alors maintenant, j'entre dans le développement de mon propos qui sera en trois parties. Vous savez qu'une corrida est en trois parties, hein, il y a 13 tercios. Le premier, vous savez, on laisse entrer le taureau. Là, on va le faire rentrer, on va faire rentrer le problème. On va lui laisser faire quelques tours de piste. Et puis, vous allez voir, je vais quand même lui donner quelques coups de pique pour essayer de tasser sa charge, qui est trop rectiligne. Comme ça, après, on va pouvoir le faire tourner autour de nous. Et puis, deuxième partie, donc la première partie, c'est les trois visions du rapport à la nature prises dans son ensemble, trois visions qui seront également erronées. C'est le taureau. Puis, deuxième partie, on va approcher la notion de responsabilité pour la création, plutôt la vision biblique du rapport à la création, qui est préparée par des auteurs païens, d'ailleurs, certains d'entre eux, pas tous. Et puis, c'est la partie, je dirais, de pure joie de la révélation aussi. C'est la partie des banderilles. Banderilles, vous savez, ça ne sert à rien. Corrida, ça ne sert absolument à rien. C'est juste des types qui arrivent et qui prennent la posture du crucifié, mais qui renvoient les clous sur l'adversaire. Vous voyez, et ça, mais c'est du jeu. Ça n'a aucun effet, ni sur le taureau, ça ne fait pas grand-chose, ni pour la suite même de la troisième partie. Et la troisième partie, c'est la partie sérieuse, la faena, la série de passes, hein, faire le matador jusqu'à l'estocade. Et c'est là que je vais parler de la tauromachie en elle-même, comme modèle. Alors, première partie, premier tiers, trois visions du rapport à la nature prise dans son ensemble. La première vision que je voudrais mettre en évidence, c'est une vision grecque. Je ne vais pas dire, comme on a tendance à le faire, la vision des Grecs, parce qu'il y avait plusieurs visions dans le monde grec. Mais je vais en prendre une qui, d'une certaine façon, est celle qui s'est cristallisée jusque dans l'Empire romain, c'est-à-dire la vision stoïcienne. C'est elle qui, à un moment, va prendre le dessus sur le platonisme, sur l'aristotélisme, et c'est cette vision de la nature qui devient le modèle, vraiment, de pensée d'une certaine religion qu'on va appeler religion du cosmos. Le principe, donc premier point, ce que j'intitulerai « amor fati » en latin, hein, ça veut dire aimer le destin, littéralement, mais ça veut dire surtout accepter l'ordre du cosmos tel qu'il est donné. Dans ce point de vue, qui est un point de vue qu'on peut appeler holiste, on voit le cosmos comme un tout, on adopte le point de vue du tout, et l'homme n'est qu'une partie de ce tout. Mais il est une partie qui a cette particularité qui est d'avoir conscience du tout, de participer, on pourrait dire, de la conscience du tout. Et donc, il doit, lui, partie, s'accorder au tout en ayant conscience qu'il n'est qu'une partie du tout. Ça, il ne s'y accorde pas, je dirais, spontanément. Il doit passer par cette prise de conscience. Et dans cette manière de voir, l'homme est la partie d'un grand tout avec laquelle il doit s'adapter complètement, s'engrener complètement. Il y a de l'adversité. Il y a vraiment de l'adversité. L'adversité est naturelle dans cette manière de voir. Mais cette adversité, elle ne se solidifie, c'est-à-dire qu'elle devient quelque chose dont on va se plaindre jusqu'à vouloir se tuer ou fuir ou maudire le monde, justement, que si on prétend se désolidariser du tout. Et donc, la solution, toujours, c'est de comprendre qu'on est d'une partie dans un tout. L'idée d'un monde avec plusieurs niveaux, etc., du point de vue cosmologique, qu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai, mais du point de vue, je dirais, pratique, il y a quand même une logique très profonde de l'unité du monde chez les stoïciens. Et le fait qu'on est une partie d'un grand tout. Et dès lors, je vais prendre des citations de Marc Aurèle, qui est à mon avis celui qui résume le mieux toute cette pensée. Au fond, le danger pour nous, c'est de se désolidariser du tout, de se poser comme une partie contre les autres parties ou contre l'ensemble. Écoutez ces paroles de Marc Aurèle, voyez, « L'âme de l'homme se fait surtout injure lorsqu'elle devient, autant qu'il dépend d'elle, une tumeur et comme un abcès du monde. » S'irriter en effet contre quelque événement que ce soit et se développer en dehors de la nature, en qui sont contenues en tant que partie les natures de chacun de tout le reste des êtres. Vous voyez ? Donc, dès que je subis une adversité et je gémis et je me plains, je deviens comme un abcès. Parce qu'au lieu de m'intégrer à ce tout, comprendre que ce qui m'arrive, c'est normal et c'est pour l'harmonie de l'ensemble, voyez, je deviens comme une tumeur, un abcès, un bouton qui finira par crever, bien sûr. Hein. Mais je n'ai pas compris mon intégration comme une partie à l'intérieur du grand organisme du cosmos. Écoutez toujours Marc Aurèle. « As-tu vu par hasard une main amputée, un pied, une tête coupée et gisante à quelque distance du reste du corps ? C'est ainsi que se rend, autant qu'il est en lui, celui qui n'acquiesce point à ce qui arrive, qui se retranche du tout ou qui agit à l'encontre de l'intérêt commun. » On a vraiment une pensée de la totalité et de l'étant comme étant inséré dans une totalité, qui est précisément ce que va critiquer une des pensées les plus profondes du XXe siècle, celle d'Emmanuel Lévinas. Mais là, on a vraiment quelque chose d'emblématique de cela. Alors, bien sûr, ton enfant meurt, c'est un drame pour toi, mais c'est parce que tu adoptes un point de vue séparé et local. Dans l'ensemble, c'est bien. Ça fera de l'engrais pour les plantes. Vous vous souvenez, l'histoire, enterrer votre chat crevé au pied d'un rosier, il fera des fleurs plus belles. Il n'y a rien de mieux. Ben voilà, faites ça aussi avec les enfants, c'est pas mal. Vous verrez combien ça fait pousser des fleurs très belles. C'est recommandé même par des partisans de la nature. Et d'ailleurs, ce que je vous dis là, il y a des passages extraordinaires chez Marc Aurèle où il dit la beauté de la putréfaction, de toutes ces choses qui nous apparaissent laides, parce que si on les voit selon le point de vue du cosmos, elles apparaissent comme à leur place dans l'ensemble. Vous voyez, au fond, vous voyez, quand vous êtes trop près, vous voyez des taches. Et vous dites, c'est informe. Mais dès que vous prenez la distance cosmique, vous voyez, tout d'un coup, vous voyez que cette tâche s'insère à l'intérieur d'une forme belle. Et voilà, pour conclure un peu ce qui résume tout à fait la pensée de Marc Aurèle, mais qui marque aussi une première ambiguïté. La philosophie consiste en ceci, à veiller à ce que le génie qui est en nous reste sans outrage et sans dommage et soit au-dessus des plaisirs et des peines. C'est très curieux, tout d'un coup, on n'est plus avec le cosmos, on est avec le génie qui est en nous. D'où vient tout d'un coup cette intériorité? Et on ne s'agit plus d'être à niveau avec le cosmos, mais de se tenir au-dessus des plaisirs et des plaines. Ça, c'est un sort de... Qu'est-ce qui est en jeu? Bon. Et surtout, à attendre la mort avec une âme sereine, sans y voir autre chose que la dissolution des éléments dont est composé chaque être vivant. Retour dans le grand tout, la mort n'est rien. Si donc, pour ces éléments eux-mêmes, il n'y a rien de redoutable à ce que chacun se transforme continuellement en un autre, il est naturel que les animaux se mangent entre eux. Chaque élément se transforme en un autre. C'est naturel. Donc, voilà, pourquoi craindrait-on la transformation de leur ensemble et sa dissolution, la mort? C'est selon la nature, et rien n'est mal de ce qui se fait selon la nature. Donc vous avez une pensée de la nature qui est totalitaire, il n'y a pas d'autre mot, hein. Et nous ne sommes que des parties qui sont exploitées par ce grand tout. Ce n'est pas un totalitarisme politique ici, hein, bien sûr, mais c'est un totalitarisme en tout cas spéculatif et moral. Mais vous voyez déjà que s'insère un problème qui est l'ambivalence par rapport à l'adversité. Est-ce que quand il y a une adversité, quelque chose qui s'oppose à moi, c'est une épreuve pour que j'apprenne à me réintégrer au tout et que je fasse cette prise de conscience? Ou alors, est-ce que c'est pour montrer ma valeur, mon impassibilité, mon aguante, comme on dit en corrida, oui, résister, tenir au milieu de la tempête, être au-dessus, comme le disait, vous voyez? Alors, vous voyez, il y a une ambivalence dans le discours de Marc Aurèle. Il s'agit à la fois d'être une partie dans le tout, mais il s'agit aussi d'être au-dessus du tout. Et je pense que le stoïcisme reste piégé dans cette ambivalence. Vous avez un passage admirable, ce très très grand auteur, ça ce sont des très grands écrivains. Vous savez que les écrivains stoïciens sont parmi les plus grands écrivains. Sénèque, ses tragédies ont été le modèle de la tragédie élisabéthaine, hein, et Shakespeare doit tout à Sénèque. Donc Sénèque de Cordoue, je rappelle. Et puis Épictète, qu'on connaît uniquement par son manuel, qui est un des textes les plus ridicules. Un petit texte, mais quand vous lisez les entretiens, vous avez un génie littéraire indéniable. Et dans les entretiens, vous voyez, il est parlé d'élévation de l'âme, ou être au-dessus, en même temps intégré au tout, mais être au-dessus. Vous allez voir ce passage très beau qui insiste sur l'héroïcité, qui ressemble d'ailleurs à c'est une manière de voir la corrida, de la voir du point de vue stoïcien, vous voyez, l'homme qui s'élève au-dessus du danger, l'homme qui brave le danger, qui brave la bravoure du taureau. Voilà, c'est un petit dialogue. N'avez-vous pas reçu des moyens de braver tous les événements? N'avez-vous pas reçu l'élévation de l'âme? N'avez-vous pas reçu le courage? N'avez-vous pas reçu la patience? Et dès que j'ai l'élévation de l'âme, que m'importe ce qui peut arriver? Qui pourra me permettre hors de moi? Qui pourra me mettre hors de moi et me troubler? Qui pourra me sembler pénible? Vais-je donc, au lieu d'employer ma force à ce pourquoi je l'ai reçu, pleurer et gémir sur les événements? Vous voyez, là, c'est ne pas gémir sur les événements, non pas parce que je suis une partie d'un tout, mais parce que j'ai la faculté de m'élever au-dessus. Vous voyez, il s'ambivalence hein, sans cesse chez les stoïciens. Alors, écoutez la réponse. Soit, mais mes narines coulent. C'est-à-dire, j'ai tellement peur, je gémis et j'ai les narines qui coulent. Alors, la réponse, eh bien, esclave, pourquoi as-tu des doigts, n'est-ce pas pour te moucher? Donc, on a toujours les moyens de résoudre le problème en nous. Ne vaut-il pas... Alors, oui, mais... Alors écoutez la suite. Mais est-il raisonnable qu'il y ait dans ce monde des narines qui coulent? Ça, c'est la grande question. C'est la question que je pose. Est-il raisonnable qu'il y ait dans ce monde des narines qui coulent? C'est-à-dire le mal dans la nature, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne vaut-il... Et alors, écoutez la réponse. Ne vaut-il pas mieux te moucher que récriminer? Et écoutez la suite qui est admirable. Que crois-tu donc que fût devenu Hercule s'il n'y avait pas eu le fameux lion? Et l'hydre, et le cerf, et le sanglier, il aurait pu rajouter le taureau de Crète, bien sûr. et plus d'un homme inique et cruel qu'il a chassé et dont il a purgé la terre. Qu'aurait-il fait si rien de pareil n'avait existé ? Il est évident qu'il se serait enveloppé dans son manteau et y aurait dormi. Autrement dit, ici, l'adversité nous stimule, nous réveille et nous permet de nous élever au-dessus de la condition ordinaire. Alors, est-on au-dessus du monde ou intégré au monde ? Vous voyez, il y a une argumentation qui est double et qui, d'une certaine façon, on pourrait dire, ah, on pourrait retrouver une cohérence. Moi, j'aime bien faire des lectures où on voit les points de friction dans une pensée. C'est toujours le cas, dans toutes les grandes pensées même. Hein. Parce que ça montre que ce sont des personnes qui se sont confrontées au réel. Or, le réel, c'est difficile de le réduire à un concept. En vrai, c'est des grands penseurs, il y a toujours des points de tension, mais ça nous révèle une ambivalence du stoïcisme. Vous voyez, là, je suis en train de torréer. C'est-à-dire, je prends une pensée adverse, mais je montre intérieurement comment... Vous voyez, petit coup de pic, je réduis sa charge. Je montre comment elle a ses contradictions. Alors, après cette vision-là, il y a une seconde vision de la nature qui s'est instaurée exactement à l'opposé de la vision stoïcienne. C'est plus « amor fati » en latin, c'est « amor » en français, « fatum ».« Amor », cette destinée cosmique. Et ça a été le projet moderne. L'homme n'est plus la partie d'un tout, il est... Pars totalis, une part qui est, il est à part entière, si j'ose dire, un vis-à-vis de la nature. Et il est celui qui doit lutter contre les désordres de la nature. C'est le projet moderne. Dualisme, dès lors, entre culture et nature. Et le projet, c'est d'abolir l'adversité naturelle. Bien sûr, on voit cela dans un célèbre texte de Descartes. Vous connaissez la sixième partie du discours de la méthode où Descartes forme le projet de nous rendre comme maître et possesseur de la nature par la technoscience. Et il finit, enfin il va jusqu'à cette phrase qui montre bien que c'est aller même contre ce que les stoïciens considéraient comme un ordre naturel contre lequel, avec lequel il fallait faire sans le combattre. Y adhérer. Comme une partie d'un tout qui est nécessaire, eh bien, il parle même d'abolir la vieillesse. On se pourrait exempter d'une infinité de maladies, tant du corps que de l'esprit, et même aussi peut-être de l'affaiblissement de la vieillesse, grâce à cette technoscience, si on avait assez de connaissances de leurs causes et de tous les remèdes dont la nature nous a pourvus. Vous voyez, Descartes est très très fort parce qu'il ne tombe jamais dans les pièges. Il ne dit jamais que l'homme est maître et possesseur de la nature, comme vont le penser les personnes qui vont le suivre. Mais il est comme maître et possesseur de la nature. Et puis, cette manière d'aller contre, vous voyez, le vieillissement, qui est un processus naturel, et on pourrait dire, imaginer d'autres violences, hein, bien sûr, donc les maladies, auxquelles le stoïcien doit d'une certaine façon consentir, comme un destin, puisqu'il est à la partie de ce tout. Là, non. On se place face à cette totalité comme extérieure et on va lutter contre des aspects qui, dès lors, vont nous apparaître comme des violences naturelles qu'il va falloir abolir. Eh bien, Descartes dit que c'est encore la nature qui nous pourvoit. C'est ça qui est très fort, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, il ne dira pas aller contre la nature. Et le projet d'exploitation et d'emprise totale sur la nature comme stock de ressources, etc., apparaît ici. Mais, chez Descartes, c'est toujours tempéré par autre chose. Ce projet, bien sûr, va se former à partir de la révélation chrétienne, d'une certaine façon, et avec l'idée que le point de vue ultime n'est pas donné par le cosmos, mais par un Dieu qui est transcendant au cosmos. Dès lors, ce qui me donne le critère ultime n'est pas le cosmos, ce qui me donne le critère ultime, c'est la loi de Dieu. Ce n'est pas l'ordre du cosmos. Donc je ne peux plus être un stoïcien. Il ne s'agit pas de vivre selon le cosmos. Il s'agit de vivre selon la loi de Dieu. Et l'homme va être pourvu d'une dignité qu'il fait qu'il va pouvoir aussi, au nom de cette loi de justice, lutter contre un mal qui peut apparaître dans le cosmos, soigner le prochain. Le projet cartésien de trouver des sciences utiles à la vie est un projet qui s'inscrit exactement dans la mission évangélique des œuvres de miséricorde. C'est pas, dire, la technoscience apparaît dans un cadre qui est celui de la chrétienté. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas la diaboliser. Et même, je vais aller plus loin, les pères de la technoscience, avant Descartes, ce sont des franciscains, curieusement. Ah, bien sûr, quand on lit le Cantique des créatures, aujourd'hui, on se gargarise avec, en disant « on est frères, des petits animaux », etc. D'abord, de ce Cantique ne parle jamais des animaux, je tiens à vous le préciser, donc je ne sais même pas comment on peut y arriver. Vous savez de quoi il parle, hein? Il parle des herbes, des fleurs d'après, etc., mais il parle aussi du soleil, de l'eau, et de notre sœur la mort corporelle. Vous voyez, donc, pas oublier qu'il y a notre sœur la mort dans ce cantique. Mais surtout, c'est une remarque très très forte que fait un prêtre moderniste, la Bertonnière, dans ses études cartésiennes, qui explique qu'il faut abandonner Aristote et prendre Descartes comme fondement de la vraie théologie, parce que sinon on fait une sorte d'animal hybride monstrueux qu'est la théologie de saint Thomas, qui part d'Aristote, un païen, et qui greffe la révélation chrétienne. Non, lui, il dit, celui qui refonde vraiment, il ne faut pas oublier que tout le XVIIe siècle a commencé à croire ça, hein, même Bossuet, c'est Descartes. Alors, lui qui est moderniste, c'est ça le modernisme, hein, d'abord, c'est de dire les Grecs, on s'en débarrasse. Il n'y a pas de raison, on pourrait dire, naturelle. Il faut partir à l'intérieur. C'est très curieux, le modernisme, comme structure de pensée. Parce que ça se veut aussi... Enfin, ça devient moderniste par idée que la révélation se suffit à elle-même d'une certaine façon et n'a pas besoin de la raison antique. C'est ça qui est étonnant. Donc, c'est aussi un révélationnisme, le modernisme. Le père Labertonnière qui dit que Descartes est supérieur à Aristote et qui dit justement parce que Aristote, c'est le contemplateur esthète. Alors peu importe si des gens crèvent autour de vous, vous contemplez, c'est beau. Alors que Descartes, la figure majeure de cartésianisme, c'est l'ingénieur. Des gens vont mal, il faut maîtriser les forces de la nature pour abolir le mal. Voilà la thèse. Et il dit d'ailleurs, dans la pensée d'Aristote, il y a une telle hiérarchie des natures que l'esclavage est possible. Dans la pensée de Descartes, l'esclavage n'est plus possible parce que la res cogitans est transcendante à tout l'ordre de la res extensa, de tout l'ordre de la nature mécanique matérielle. Donc vous voyez, il y a des affirmations qui sont très fortes, hein, de la Bertonnière. Mais là où elles sont encore le plus fortes, c'est que quand il relit le Cantique des créatures, il dit, regardez, quand il parle du soleil, il dit que le soleil nous illumine. Il nous dit que l'eau est utile et humble, précieuse et chaste, c'est-à-dire qu'elle est pour nous utile au plan matériel, mais aussi utile au plan spirituel, puisqu'elle nous donne l'image de ce qui est précieux, de ce qui est humble et chaste. Le feu illumine les ténèbres, il est beau et agréable. Notre mère, la terre, qui nous soutient avec les fruits, les herbes, les fleurs. Et voilà ce que dit, il dit, il saute aux yeux que le symbolisme et la considération de l'utile se mêlent ici. Voilà ce que dit la Bertonnière. Et il dira, plus loin, n'est-il pas remarquable que ce soit un franciscain de la première génération, Roger Bacon, non pas Francis, mais Roger Bacon, qui le premier a eu explicitement l'idée d'une exploitation de la nature et d'une science de cette exploitation. Donc vous voyez, les franciscains, pour relire un petit peu l'histoire. Hein. Où nous en sommes de ce projet d'exploitation de la nature? Donc d'une interprétation, on verra, est-ce que c'est une interprétation juste du projet de la révélation biblique, vous voyez, qui déplace des choses par rapport au paganisme? Puisque la référence, c'est la loi de Dieu et non plus la sagesse du monde, pour reprendre des expressions de Rémy Brague. Il y a quelque chose au-delà de l'ordre du cosmos, de la sagesse du monde. Ce qui est certain, c'est que le moment du temps dans lequel nous sommes, très particulier, c'est que notre projet d'exploitation de la nature pour l'homme conduit à la destruction de l'homme. Le problème aujourd'hui de l'Apocalypse, c'est-à-dire d'une certaine possibilité de fin des temps, fin de la vie humaine, de l'extinction, c'est pas qu'une extinction qui vient du point de vue cosmique, une extinction qui adviendrait par une intervention extérieure. C'est que c'est le projet même de société parfaite où tout ira bien chez les hommes, ici-bas, qui conduit cette destruction. C'est ça, vraiment, la situation dans laquelle nous sommes. Une destruction qui s'opère par le projet de construction parfaite et bienheureuse, ici-bas. À ce sujet, je tiens à préciser une chose. Le sauvage est une invention moderne. Le sauvage doit dater, du XVIe siècle. Vous comprenez pourquoi ? Dans les pensées, d'abord, les sauvages ne se pensaient pas sauvages. C'est les hommes qu'on appelait des sauvages, ils se pensaient civilisés à leur manière. Bon, première chose. Mais en plus, dans leur vision du monde, il n'y avait pas des parties sauvages de la nature. Toute la nature était habitée, hantée par l'esprit, pris dans une trame culturelle. Le sauvage, en fait, est corrélatif du projet moderne d'exploitation de la nature. Il y a des zones sauvages qu'il faut civiliser. Et vous voyez, le problème, c'est qu'on croit à cette civilisation par l'exploitation des zones sauvages, mais quand la civilisation s'effondre, tout bascule. Et cet effondrement, on peut le voir très tôt, c'est-à-dire précisément au siècle des Lumières. C'est-à-dire au moment même où le projet va prendre sa forme, on pourrait dire son coup d'envoi vraiment avec la société industrielle, etc., au même moment, il va y avoir une critique romantique qui va se faire. Et on le voit bien, cette ambivalence chez Rousseau. Lui, c'est à cause de son expérience malheureuse de la cour. Il a été dans la cour, il a voulu briller là-bas, il s'est pris un râteau, et il est reparti, et il a dit, mais tout ce monde artificiel, c'est pas bien. Bon. Et donc, il reconstruit, malgré tout, il est pour la civilisation, hein, Rousseau, à partir du contrat social. Mais il y a quand même cette image qui va apparaître du bon sauvage. Vous voyez, dans un premier temps, le sauvage est le corrélatif du projet moderne, mais quand ce projet moderne, vous le mettez en cause, le sauvage ressort, dans un second temps, comme le merveilleux, ce qu'on a perdu, et alors il faudrait revenir à l'âge d'or. Puisque ce sont les institutions qui nous ont corrompus, l'homme à l'origine était bon, etc. Et alors vous cherchez quelle est l'institution qui nous a corrompus, alors Marx va dire, c'est la révolution industrielle qui pose un problème. Oui, mais Marx ne prétend pas revenir en arrière. Ça, c'est la grande différence avec beaucoup d'autres. Il pense qu'on ne peut aller qu'en avant. Et puis, maintenant, vous savez, les post-marxistes, à partir de Marshall Salins, vont dire non, c'est la révolution néolithique, déjà. Et alors là, on revient vraiment à l'idée que l'homme bienheureux, c'était le paléolithique. Vous savez, vous trouvez ça chez Harari, dans Sapiens, où il dit... la culture du blé a été une catastrophe. Nous avions un corps athlétique fait pour chasser les bêtes. Et voilà qu'on se retrouve penché sur le sillon. Et notre corps, maintenant, a plein de problèmes. Moi, je pensais que c'était parce qu'on était devant des écrans et faire de l'informatique. Non, déjà, la culture du blé, c'était un problème pour eux. Et donc, parce qu'il fallait rester au paléolithique. Le rêve du chasseur-cueilleur. Alors Van Eghem a ressorti ça, c'était oui, très très tôt. Et puis c'est aussi d'ailleurs le mythe de Mark Zuckerberg. C'est-à-dire le mec qui fait Facebook s'achète plus ou moins une île quelque part pour pouvoir chasser, essayer de vivre sur un mode paléolithique. Pourquoi ? Non mais pour une raison très simple. Parce qu'en fait, le rêve du paléolithique, c'est la vie comme une sorte de grand jeu aussi, où on tire à l'arc, etc., un jeu d'enfant. Et aussi la cueillette. La cueillette telle qu'elle est, la cueillette du paléolithique, comment est-ce qu'on la projette, nous, consommateurs ? Comme des gens qui entraient entre des bosquets, comme des rayonnages, et qui pouvaient consommer des fruits, vous voyez, comme ça, mais sans carte de crédit en plus. C'était incroyable, magnifique. Bon. Alors, il faudrait réfléchir à l'espérance de vie, à des tas de choses, et puis à la situation des faibles.
Le radar maintenant est installé sur le toit des immeubles, où en fait, on fait des treillages verticaux, justement, avec...
Ah oui, les treillages verticaux au sommet des immeubles dans lesquels on peut passer pour cueillir des choses. Bon. Et donc, vous voyez, dans un second temps, le Amor Fatum va se renverser, et où la technologie était là pour lutter contre la nature, et tous ces problèmes, ces désordres, va devenir au contraire une technologie qui n'est plus progressiste, mais régressiste. Nous sommes à une époque, et j'en arrive à ma troisième partie, qui n'est plus Amor Fati, ni Amor le Fatum, mais que je vais appeler Homo Fatalis, l'homme vampire de la nature. Homo Fatalis, dans le titre d'un livre sur la figure du vampire dans la littérature occidentale. Il fallait lutter contre la nature pour le bien de l'homme. Maintenant, il faut lutter contre l'homme qui détruit la nature. Et là, on retrouve le holisme stoïcien. L'homme n'est qu'une partie du grand tout, et il faut que l'homme se réfrène pour réintégrer le grand tout. Et la lutte contre l'adversité n'est plus d'abord pour s'élever, mais c'est d'abord une lutte contre soi-même, et même en vue d'une vie qui est une vie de confort. Et c'est même plus. Il y a quand même le projet de confort du modernisme, plus le holisme du stoïcisme. Vous comprenez ? C'est ça ce que j'essaye de vous montrer. Et dès lors, l'homme apparaît comme un prédateur. La figure majeure de cela, vous savez, c'est la pensée éthique de, si on peut appeler ça une pensée, plutôt qu'un algorithme, de Peter Singer. Donc celui qui a écrit ce livre fameux pour la libération animale, mais je pense que son livre majeur est plutôt des livres antérieurs, notamment Question d'éthique pratique, où il reprend une idée qu'on trouve chez Jérémy Bentham, le vrai père de l'utilitarisme. Enfin, il y en a eu d'autres avant, mais Bentham est celui qui lui a donné vraiment toute sa force, où il dit, mais en fait, on est déjà dans une sorte d'antispécisme, il dit, mais en fait, tout le problème, c'est le plaisir, la souffrance, la douleur et le plaisir. Bon. Donc, si on considère que tout se joue à partir de la douleur, bien tous les êtres sensibles appartiennent à un même ensemble, un même continuum, et l'éthique doit se préoccuper de tous les êtres sensibles. Et l'antispécisme dit que l'homme n'est qu'un être avec une sensibilité particulière, mais il n'est pas le seul, puisque les autres animaux sont aussi des êtres sensibles. Donc on doit considérer également tous les êtres sensibles. Mais en même temps, cette considération égale aboutit à une désincarnation, puisque je ne dois pas avoir mon point de vue. Vous savez, la grande question de Peter Singer, c'est de dire il faut avoir une égale considération des intérêts de tous, ceux que pourraient toucher mon action. Donc, vous voyez, quand j'ai un billet de 500 francs, ma spontanéité serait de dire... Ben ouais, j'aide mes proches. Singer va dire non. Vous devez réfléchir d'abord à la manière d'employer ces 500 francs de telle sorte qu'il y ait la plus grande augmentation de bonheur cosmique, planétaire. Donc il faut anticiper les conséquences, il faut calculer, il faut envisager le lointain comme le proche. Vous voyez, par exemple, vous avez vos 500 francs. Avec vos 500 francs, vous allez donner à votre fille qui va se racheter encore un téléphone portable puisqu'on a cassé un deuxième. Et ça va lui faire un certain plaisir. Mais imaginez ce que vous faites avec ces 500 francs si vous les donnez à une famille au Burundi. Ah là, c'est la joie énorme. Donc ces 500 francs, je ne devrais pas les utiliser pour ma fille. C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait faux. Hein. Il y a une question de la justice ici qui est pensée. C'est pas impensé. Mais vous remarquerez qu'il n'y a plus l'ordre charnel de la charité. Il n'y a plus de proches ni de lointains. On est dans le sans-distance. Et quand il dit, Singer, pourquoi est-ce que je devrais agir ainsi sans considérer d'abord mes proches ? Il dit, il essaye de motiver cette logique-là. Il sait sur quoi se fonde la perspective utilitariste. Il va dire, eh bien, c'est... Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce qu'après tout, un type pourrait être un pervers, un psychopathe, il prend le cas du psychopathe, et puis agir, je ne pourrais rien lui dire, je ne pourrais pas le convaincre que c'est vrai. Mais il dit, mais quand même, il y a quelque chose, c'est adopter le point de vue du cosmos. Et il revient au stoïcisme. Mais c'est un stoïcisme qui repasse par une pensée du calcul et qui cherche, malgré tout, le bien-être général. Ce qui n'était pas le problème du stoïcisme. Le stoïcisme, c'était la confrontation à l'adversité et l'élévation par l'adversité. Vous voyez ? Donc on est dans un... Vous voyez, c'est comme si on avait cumulé deux choses. Ah, j'essaye de vous montrer une sorte de... Alors, vous comprenez qu'ici, il y a deux problèmes qui se posent. La violence sera toujours là. La mort, la prédation dans la nature. Et j'appelle de tous mes voeux la fin de la crise écologique pour une raison très simple, c'est que pour l'instant, cette crise nous focalise et on pourrait croire que quand on l'aura résolue et qu'on habitera tous dans des éco-hameaux, on aura résolu nos problèmes. Mais non, dans les éco-hameaux, ça va mal aussi. En fait, ce qui est bien dans la fin de la crise écologique, c'est qu'elle pourra elle nous permettra d'ouvrir enfin les yeux sur l'inévitable tragédie. C'est-à-dire celle que voyait saint Paul quand il disait « la création gémit ». Pour l'instant, on croit qu'on pourrait éteindre ces gémissements. Et ça, c'est un problème. La deuxième chose, c'est qu'il y a dans l'animalisme, dans l'homo fatalis, que j'appelle comme ça, vous voyez, mais donc la critique de l'homme, par l'homme d'ailleurs, c'est encore une autre exploitation de l'homme par l'homme, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est encore plus absurde, c'est de vouloir protéger la nature contre elle-même. Remarque que fait Francis Wolff, l'auteur de Philosophie de la Corrida. Ben oui, parce qu'on voudrait, vous voyez, on voudrait un ordre vegan. Donc, il faudrait rendre le lion végétarien. C'est-à-dire nier la prédation interne à la nature. Normalement, si vous êtes un être parfaitement naturel, vous devez vous manger de la viande. Si vous ne mangez pas de la viande, c'est pour des questions morales et même par un problème artificiel ou contractuel qui est lié à un dérèglement du rapport à la nature, peut-être. Mais en tout cas, vous voyez, le véganisme est anti-naturel, si j'ose dire. Et donc, il va y avoir l'idée à un moment de protéger la nature contre elle-même. Donc, vous voyez, on veut sauver la nature en détruisant sa structure fondamentale. Enfin, fondamentale, sa condition actuelle. Et on entre dans cette sorte de despotisme vegan où on veut donner à nos petits chats des croquettes végétales. Le triomphe de la mascotte, mais la mascotte qui est finalement tellement anthropomorphisée qu'elle souffre. Vous voyez ? Alors j'en arrive au deuxième point qui est le point des banderilles. Le point de vue biblique, la responsabilité pour la création. Il y a toujours eu une critique païenne de la primauté du tout. J'en veux pour preuve l'admirable citation que m'a dégotée Hugo hier, celle des Mémorables de Xénophon, où Socrate dit qu'il ne veut pas du point de vue cosmique. Il ne discourait point, comme la plupart des autres philosophes, sur la nature de l'univers et sur la partie dans le tout. La vraie question de Socrate, c'est comment être un homme juste, d'après Xénophon. Hein. Et vous remarquerez que, on l'a dit d'ailleurs, ce que disait aussi Olivier tout à l'heure, que dans le Timée, enfin, il y a des considérations cosmologiques chez Platon, mais elles passent très vite à l'arrière-plan. C'est pas l'enjeu principal. La question, c'est le bien. Et d'ailleurs, le bien est au-dessus du monde sensible, l'imbien. Il est même au-delà de l'être. Donc c'est pas une vision cosmologique. Vous avez chez Aristote, je vous renvoie au petit livre qu'on a écrit « Qu'est-ce que la nature ?» avec François-Xavier Putala, un point de vue où c'est pas la nature prise comme cosmos qui prévaut, mais la physis et donc la diversité des natures. Chaque être a une nature propre et il y a une multitude de natures, une coordination peut-être, une certaine coordination de ces natures, mais c'est pas vu comme un grand tout. Le point de vue aristotélicien n'est pas un point de vue du cosmos comme tout, c'est pas un point de vue stoïcien. Autre préparation évangélique, si j'ose dire, païenne, bien sûr, le grand, le très grand, et j'en appelle aux spécialistes de cet auteur qui se trouve dans cette salle, à savoir Fabien Olivo, le grand Virgile, dans les Géorgiques. Virgile n'a pas du tout le point de vue stoïcien. On pourrait dire que, alors même que c'est un Romain, c'est l'anti-Marc Aurèle. L'anti-Marc Aurèle. Parce que quand il décrit dans le troisième livre des Géorgiques l'épidémie du Norique, il ne dit pas « c'est normal, c'est l'ordre de la nature ». Il décrit une épidémie très étrange qui affecte tous les animaux. Ça aussi, on ne sait pas ce que c'est. Parce que, vous voyez, et tous les animaux meurent brusquement. Très belle page d'ailleurs sur le taureau qui s'effondre, le bœuf de labour qui s'effondre. Il dit taureau, hein, vraiment, alors qu'il vient de tirer la charrue, et alors on doit le dételer de son frère, qui va d'ailleurs mourir. Et le paysan dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il a cette phrase qui n'est pas du tout une phrase d'acquiescement, d'amor fati. Il a cette parole « Dieu, traitez mieux vos fidèles et réservez ses égarements à vos ennemis. » C'est trop, c'est... L'ordre de la nature ne suffit pas, vous voyez. Il y a un désordre qu'il voit et il en appelle au Dieu, au pluriel. Et il dit qu'il y a un problème. Et autre chose, dans ce livre 3, l'homme apparaît comme l'intendant des dieux de la terre, de Cérès notamment. Il est, comme dit un commentateur de Virgile, l'organisateur du désir qui est répandu dans toute la création, l'amour qui est partout. Et on peut même, vous voyez, il va choisir, la nature fournit des semences, fournit des terres, etc. Mais c'est lui qui va faire en sorte que les bonnes semences aillent dans les bonnes terres. Donc sélection, choisir la terre convenable. C'est lui qui va sélectionner le bétail, qui va le nourrir pour conduire aux bons accouplements. Donc il est vraiment l'intendant, vous voyez, de la nature déjà. Il y a une vision virgilienne qui curieusement se rapproche beaucoup de la pensée biblique. Alors j'en arrive à la Bible elle-même. Au commencement, dans la Bible, il n'y a pas la nature sauvage, il y a le jardin. Et ça commence par le jardin. Je vous ai dit, le sauvage, c'est moderne. Ce n'est pas la jungle. Et donc, l'Éden, et si vous prenez le deuxième récit, c'est le deuxième récit, hein, l'Éden, c'est un lieu qui n'est pas celui de la nature, mais de la culture. Et avant qu'on plante les arbres, avant qu'il y ait des bêtes, la remarque c'est il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol, il n'y a pas d'Adam pour l'Adama, et donc il faut qu'il y ait l'Adam pour que, donc ça veut dire que le point de vue est un point de vue de tout apparaît dans la vision d'une culture humaine. Cependant, il faut rappeler qu'il y a un double récit de la création, deux récits qui sont absolument pas superposables. Dans le premier, les arbres et les animaux viennent avant l'homme. Dans le second, les arbres et les animaux viennent après. C'est pour nous rappeler que les arbres et les animaux viennent de Dieu d'abord. Et même, Dieu vit que cela était bon, qu'ils sont bons en eux-mêmes, pas simplement que pour notre utilité, si vous voulez. Donc, ils existent avant l'apparition de l'homme. Mais dans un second temps, ils sont liés au service de l'homme. Et attention, c'est pas que eux servent l'homme dans l'Éden, c'est que l'homme sert les animaux. Il les cultive. Un peu comme dans la vision virgilienne, hein, déjà. Reste une question, pour mieux vous expliquer ça. Les animaux se mangeaient-ils entre eux avant le péché originel ? Vous savez que c'est une question très très importante. Il y a un horizon eschatologique qui est très clair, qui se trouve dans le chapitre 11 du livre d'Isaïe, qui commence par une annonce messianique. Un rameau fleurira, sur qui reposera l'Esprit de l'Éternel. Vous savez, c'est là que vous avez les dons de l'Esprit qui sont... Et puis, juste après, vous avez ce passage très célèbre. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Vous voyez cette vision où il n'y a plus de prédation mutuelle et où tous mangent un même pâturage. C'est une vision eschatologique. Ce sont les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Mais est-ce que c'est déjà le cas, non pas dans la gloire, mais dans la grâce de l'Éden? C'est une question qui a été disputée. Je vais prendre le cas de saint Augustin. Saint Thomas d'Aquin pense que les animaux plutôt se mangeaient hein, dans l'Éden. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'il est très conscient de la nature d'un être et donc de sa forme. Et vous voyez, si tous les animaux mangeaient de l'herbe, comment expliquer la forme du guépard? Est-ce que vous voyez un guépard poursuivre une salade? Et alors, il y a un problème, il est fait pour poursuivre la gazelle. Il y a quelque chose, et donc Thomas résiste profondément au nom de son réalisme. Et c'est à son honneur, même si je vais le critiquer. Saint Augustin adopte le point de vue de Thomas, pour commencer. Pardon, c'est un anachronisme, mais enfin... c'est comme ça que pensent les thomistes. C'est une trahison. C'est très intéressant, mais là, je vais montrer qu'il a été plus loin, justement. Dans un premier temps, vous savez, il a écrit deux livres sur deux commentaires de la Genèse, un De Genesi contra Manichaeos, une lecture de la Genèse contre les Manichéens, qui est une œuvre de jeunesse quand il a 35 ans, puis la Genèse au sens littéral, qui est écrite beaucoup plus tard. Donc, la première, c'est en 389, puis après, c'est en 401-415. Et enfin, on a encore des textes sur cette question en 426 ou 427 dans ses rétractations. Dans la première, il dit « On voit bien que les animaux se mangent entre eux. Donc, quand dans la Genèse, on nous dit que tous les animaux mangeaient la verdure, ça n'est que métaphorique. Et il faut une lecture allégorique de ce passage. Et au fond, ce qu'il veut, c'est s'opposer aux manichéens végétariens. Et oui, ça montre bien le problème de la polémique. Souvent, vous avez un adversaire, par exemple les végétariens, et vous allez tirer le texte en disant « Non, non, les animaux étaient des viandards, même dans l'Éden, donc vous n'allez pas nous emmerder, là. » Et c'est très dangereux, la polémique, parce qu'elle manque la rectitude de la pensée, parce qu'elle vous entraîne sur le terrain de l'adversaire et vous fait prendre la position symétrique. Non, il y a une vérité chez les végétariens. Et il faut faire attention. Il faut torer. Et c'est ça le problème ici. Alors, dans la Genèse au sens littéral, il a quand même une pensée qui est très très forte et très belle. Pourquoi les animaux s'attaquent-ils entre eux? Ils n'ont point de péché à expier, ni de vertu à perfectionner dans les épreuves. Et nous, à la limite, c'est drôle cette phrase, ce serait normal qu'on s'attaque et qu'on soit attaqué par les bêtes. Mais les animaux entre eux, on ne voit pas pourquoi. Ils n'ont pas de péché à expier et puis ils n'ont pas à perfectionner leur vertu dans l'adversité. Vous voyez, point de vue stoïcien d'ailleurs. Assurément. Mais les espèces vivent les unes aux dépens des autres. Il serait peu juste de souhaiter une loi qui permet aux animaux de vivre sans se manger entre eux. C'est-à-dire que c'est un ordre naturel qui existe dès le départ. Tant que durent les êtres, ils offrent proportion, symétrie, hiérarchie dans l'ensemble. Cet ordre est merveilleux. Mais il y a une beauté mystérieuse et non moins réelle. Mystérieuse, c'est parce qu'on les voit se bouffer, hein, que c'est sanglant. C'est ça le mystère, hein, ici. Hein. Mystère sanglant. Et non moins réelle dans cette loi d'équilibre qui renouvelle les animaux en les transformant les uns par les autres. Inconnue aux ignorants, cette loi se découvre à mesure qu'on avance dans l'étude de la nature et devient évidente pour les savants accomplis. Le spectacle du mouvement qui anime les créatures moins parfaites doit au moins offrir à l'homme d'utiles leçons et lui apprendre à quelle activité l'oblige le salut éternel de son âme, ce magnifique privilège qui fait sa supériorité sur tous les êtres privés de raison. C'est un passage admirable. La supériorité de l'homme par rapport aux êtres privés de raison, c'est de posséder une raison. Mais une raison qui ne peut être éclairée que par le comportement des bêtes. C'est ça qui est fort. Il faut voir un certain ordre dans la nature, malgré tout, Et celui qui est lié, ben, voilà, au fait que depuis l'éléphant jusqu'au ciron, le plus petit animal qu'on connaissait, les animaux déploient pour sauver l'organisation éphémère qui forme leur lot dans l'ordre où ils ont été créés, tous les moyens de défense, toutes les ressources de la ruse. Donc vous voulez sauver votre peau, vous êtes sauvé, vous voulez le salut ? Regardez ! Les animaux sont des exemples. Et il faut qu'il y ait cette prédation, de cette façon, pour qu'il soit un exemple moral pour nous. Mais voilà que Augustin va se reprendre à la fin de sa vie, dans les Rétractationes. Et il ne va pas parler de la Genèse au sens littéral, mais de la Genèse contre les manichéens, et voilà ce qu'il dit. « Parce qu'il y a des quadrupèdes et des animaux qu'on voit se nourrir exclusivement de chair, il ne serait pas non plus logique de supposer qu'il n'y a qu'une allégorie dans ce qui est dit, que les plantes et les arbres à fruits sont donnés en nourriture dans le livre de la Genèse à toutes les espèces d'animaux, d'oiseaux et de reptiles. » Il ne faut pas y voir qu'une allégorie. « Il pourrait en effet se faire que les animaux fussent aussi nourris par les hommes avec les fruits de la terre, si par l'obéissance dont ces hommes eux-mêmes, dans l'état d'innocence, auraient fait profession au service de Dieu, ils avaient mérité que tous les animaux et les oiseaux même leur fussent absolument soumis. » C'est un passage vraiment admirable, hein, puisque ça relie vraiment, beaucoup plus littéralement, ce qui est écrit dans la Genèse, hein, à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Quant à l'homme, il a plante qui porte sa semence et arbre qui porte du fruit. Est-ce qu'il mangeait la même chose ? Est-ce que les hommes avaient les céréales et les arbres fruitiers et les autres animaux, les pâturages ? Mais la thèse ici d'Augustin, à la fin de sa vie, c'est de dire non, l'homme était le grand cultivateur et c'est lui qui donnait sa nourriture à tous les animaux, y compris ce qui pour nous aujourd'hui c'est des animaux sauvages. C'est pas, on n'est pas vraiment dans la domestication ici, puisqu'il y a une obéissance qui est absolument naturelle, il n'y a pas de dressage, il n'y a pas de domestication, on est dans un ordre très particulier, mais où c'est l'homme qui est l'intendant vraiment dans le jardin et qui donne à chaque, qui devait donner à chaque nourriture sa pitance. Truc très très fort qu'on va revoir dans l'Arche. Et vous voyez que dans l'Éden, ce qui prévaut, ça n'est pas un écosystème qui est un peu trop systématique. C'est quoi la pensée de l'écosystème ? C'est une modélisation de la nature à partir des systèmes technologiques. Ou on pourrait dire à partir du marché autorégulateur capitaliste. Le marché s'autorégule, tout se fait. Voilà. Dans la nature, c'est pareil. Moi, je soupçonne la pensée des écosystèmes d'être une pensée technocratique, encore, et technocapitaliste, secondairement. Parce que, qu'est-ce qui est pensé dans l'Éden ? Ce n'est pas un écosystème, c'est une justice distributive. L'homme a pour mission d'être le juste et de donner équitablement à chaque animal, selon son espèce, ce qui lui revient. Donc on n'est pas dans l'écosystème avec des automatismes de régulation. L'homme doit être là pour distribuer à chaque espèce ce qui lui revient. Et maintenant, vous voyez comment on est éclairé. Au fond, écoutez bien, remarque importante, le désastre environnemental nous accule à retrouver la vérité édénique. C'est-à-dire, nous accule à repenser l'homme qui devient l'intendant de toutes les bêtes, y compris les bêtes sauvages. Vous voyez ? Mais nous sommes après, nous ne sommes plus dans l'Éden, malgré tout. Parce que ça va être sous un mode dramatique, et même selon la chronique d'une mort annoncée. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième partie très importante qu'il faut penser, c'est la question d'Abel. Abel, c'est le premier mort. Vous savez que le premier mort humain n'est pas Adam, mais un fils d'Adam, Abel. Et son fils cadet assassiné par son fils aîné. Ça commence mal dans la famille. Et on va beaucoup parler du complexe de Caïn. Mais il y a un autre point qui est fondamental, c'est que le premier sang versé est versé par Abel. Parce que, regardez, nous sommes dans un monde végétarien. Abel élève des bêtes. Mais c'est pour prendre leur lait, pour les tondre, sans peut-être, voilà. Mais ils ne les tuent pas. Ils ne mangent pas leur viande. Or, au moment, au temps fixé, c'est intéressant qu'il a fixé ce temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Tout d'un coup, on ne mange pas de viande et voilà qu'il y a un animal qui est en morceaux. Pas pour le manger, pour l'offrir à Dieu. La première mise à mort d'un animal se fait alors qu'on ne mange pas de viande. Et vous pouvez comprendre ce qui s'est passé chez Caïn. Il ne comprend pas ce geste de son frère. Et en plus, que ce sacrifice sanglant soit accepté. Lui qui a offert des plantes. Et il se dit, peut-être qu'il était déjà animaliste, hein. C'est un scandale. Et puis après tout, si en versant le sang, ça marche comme ça, on va y aller. Alors le péché est à sa porte, comme il est dit, hein. La bestialité rentre en lui, à Caïn, face à ce sang qu'il ne comprend pas. Mais voyez, ce qui nous est montré ici, c'est que la mise à mort de la bête n'est pas d'abord pour sa viande. On n'a pas commencé par la chasse pour subvenir à ses besoins, d'après la Bible. Puis après, il y aurait eu les sacrifices, voire les jeux tauromachiques. Non, on commence par un sacrifice. Un sacrifice sans consommation, un holocauste. Ça veut dire que l'offrande, par rapport au sang, hein, à la mise à mort de l'animal, précède la consommation. La gratuité, dans la mise à mort, a précédé l'utilité. Le sacrificiel a précédé l'alimentaire, hein, qui est très mystérieux. Alors, je suis obligé de passer ce que je voulais vous dire sur Noé, parce que je n'ai même pas parlé de corrida encore et qu'il me reste à peu près... 10 minutes. Simplement, au terme de l'histoire de Noé, vous savez, chez Noé, je vous dis rapidement, les hommes ne mangent pas de viande à cette époque-là. C'est ce qui est communément reçu par les rabbins. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une grande perversion sur la terre. Alors, certains rabbins ont dit confusion entre les hommes et les bêtes. Antispécisme, zoophilie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va nettoyer tout ça. Et on va préserver les bêtes, mais en les mettant vraiment chacune dans leur case, dans l'arche, avec l'homme qui est au-dessus. Vous voyez? Et à la fin, quand Noé sort, il y a ce passage extraordinaire, hein, tous les animaux sortent avec Noé. Ils sortirent avec lui. Ils sortent de l'arche ensemble. Et la première chose que fait Noé, ce n'est pas de planter la vigne. C'est de sacrifier une bête. Il reprend le geste d'Abel. Et vous allez entendre, juste après avoir repris le geste d'Abel, une bénédiction de Dieu qui reprend « Soyez féconds », etc. Mais après, il est dit « Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel ». Et de tout ce qui va et vient sur le sol et de tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Vous en êtes responsable. Et la relation n'est plus celle de l'Éden pacifique. C'est une relation qui passe par la crainte, par une certaine violence inéluctable. Alors, il y a la question des tuniques de peau, voilà. On ne sait pas de quelle peau il s'agit. La lecture est difficile parce que c'est soit une création complète de Dieu, hein. Dieu n'a pas, pour créer des tuniques de peau, besoin de tuer un animal, vous voyez. Certains disent que c'est justement le changement de la condition, en fait, corporelle. Ça, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire, ces tuniques de peau. Ça, c'est un... Mais pourquoi pas, à la limite, hein. Mais... Tout à fait, tout à fait. Mais ça n'enlève pas le scandale, si vous voulez. Vous voyez, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce caractère scandaleux, mais qui est la priorité. Un sacrifice qui ne s'explique pas par l'utilité, qui a une sorte de gratuité.
Par exemple,
Exactement. Donc, vous voyez, on va se mettre à manger de la viande après le déluge et après l'alliance avec Noé. Ça veut dire que manger de la viande présuppose plusieurs choses très importantes. C'est pas n'importe comment. Ça se présuppose l'arche, donc la préservation de la diversité vivante. La deuxième, les animaux qui sortent avec l'homme et qui sont livrés entre ses mains. Deuxièmement, ça suppose la préséance de la gratuité sur l'utilité. Et troisièmement, l'animal apparaît comme médiateur entre les hommes et Dieu. C'est aussi une victime de substitution. Et sa mise à mort rappelle la corruption qui nous a mérité le déluge. Il porte sur lui la mort que nous méritons. Et donc la bête est une figure du Christ. Et enfin, le dernier point, c'est que la relation qui dans l'Éden était une relation de sympathie devient après la chute, pour éviter justement cette confusion qu'il y aurait eu à l'époque avant le déluge, devient une relation de distance, de crainte et de terreur. Ici, le mot crainte, hein, c'est un mot qui est aussi ce qu'on doit éprouver face à Dieu. Hein. Attention, nous, face à Dieu, en tant qu'il peut nous menacer quand nous sommes dans le péché. Mais vous voyez, ce n'est pas une crainte... nous aussi, nous sommes dans cette crainte. Donc, je conclus cette partie. Il n'y va pas d'une dissolution dans la nature, ici, ni d'une lutte contre elle, dans la pensée biblique, mais d'une responsabilité pour la création. La vérité biblique, c'est celle-ci, et c'est la catastrophe qui nous la redévoile aujourd'hui. L'apocalypse des fils de Dieu. La catastrophe dans laquelle nous sommes nous rappelle cette mission d'avoir en charge la nature tout entière, de sauvegarder la maison commune. À mesure que nous allons vers le pire, le meilleur se révèle. À mesure où nous allons tout perdre, nous découvrons le prix de ce que nous avions et nous devenons enfin responsables. Un grand coup de pied au derrière. Alors que le compte à rebours est enclenché, non plus, on n'est plus dans un progrès indéfini, mais dans un délai. Et c'est là que réapparaît notre responsabilité pour la création tout entière. Donc vous voyez, ici apparaît une écologie dont l'horizon est dramatique, puisque c'est la mort, la disparition de tout, de toute façon. Mais elle a aussi une verticalité tragique, parce que devant ce mal, on en appelle à Dieu. Et elle a aussi une profondeur apocalyptique, parce qu'elle nous révèle ce qu'est profondément notre mission. Être responsable pour toutes les créatures. Alors j'en arrive à la dernière partie. Je vais devoir la faire beaucoup plus courte que ce que j'aurais pu faire. Brièvement, il y a donc la corrida comme modèle d'une écologie dramatique. Il y a une actualité de la corrida qui n'est pas due à la polémique avec les animalistes ou les anti-taurins. Vous savez que la corrida a toujours été contestée. Et en plus, il y a quelque chose chez les anti-taurins qu'on peut comprendre. D'ailleurs, on ne doit pas mépriser ses adversaires quand on est un bon torero. C'est qu'il y a chez eux une sorte d'impatience eschatologique au milieu du désastre. Mais l'actualité de la corrida, vous voyez, elle est autre. Hemingway, dans Mort dans l'après-midi, dit « Le seul endroit », il écrit ça juste après la Première Guerre, il dit « Le seul endroit où l'on put voir la vie et la mort, j'entends la mort violente, maintenant que les guerres étaient finies, c'était dans les arènes à taureaux. Et je désirais beaucoup aller en Espagne où je pourrais les observer. » Vous voyez, l'arène, pour lui, après la guerre, devient le dernier lieu où l'on peut voir la vie et la mort violente. Or, aujourd'hui, l'arène est le dernier lieu pour le citadin, le consommateur, où voir la mise à mort de la bête. L'abattage, autrefois, se faisait au village, à la ferme. On voyait la mise à mort des animaux. L'abattage, même autrefois, plus loin, était lié au temple. Il y avait une dimension toujours rituelle et sacrificielle. Aujourd'hui, l'abattage est industrialisé et caché. Et vous savez que les abattoirs de Chicago ont été le modèle de la chaîne de montage de Ford. C'était une chaîne de démontage et une chaîne de démontage sanglant qui est à l'origine de la structure du monde industriel taylorisé. L'abattage industriel est même emblématique du paradigme technocratique. Ce paradigme, c'est quoi ? C'est un appareil qui nous fournit une chose à disposition, mais grâce à une machinerie très complexe et cachée. L'opacité de la provenance des choses. Eh bien, l'abattage industriel, vous voyez, l'opacité de l'abattage. Ne plus voir la mise à mort. Et vous comprenez qu'au fond, si la corrida heurte notre sensibilité, c'est pas par écologie, c'est par technocratisme. Parce que le monde technocratique nous a mis en situation où nous consommons de la viande sans voir la mise à mort des animaux. Et quand nous voyons cette mise à mort, eh bien, c'est un choc pour nous. On n'a pas du tout été accoutumés. Eh bien, l'arène, aujourd'hui, est le dernier lieu où un citadin voit cette mise à mort, elle lui saute à la figure. Deuxième chose, la corrida est aussi le seul lieu où on peut apercevoir encore quelque chose des sacrifices de l'ancienne alliance. Il ne faut jamais oublier que les sacrifices sont sanglants, tous, y compris celui du Christ à la messe, c'est sur un mode non sanglant, il s'agit bien de l'actualisation du sacrifice sanglant du Christ sur un mode non sanglant. Et que même il y a cette mystérieuse situation du lien entre l'homme et la bête dans la mort. Quand on met un animal à mort devant nous, nous pensons à notre mort, nous pensons à la mort que nous méritons. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Ecclésiaste. Car le sort des fils d'Adam et celui de la bête sont un seul et même sort. Comme est la mort de l'un, ainsi la mort de l'autre, ils ont tous un seul et même souffle. L'homme n'a rien de plus que la bête, tout est vanité. Je pense que ça, c'est pas simplement une égalisation, un nivellement, mais c'est la condition de possibilité qui faisait que le sacrifice de la bête nous renvoyait à notre propre sort et à notre propre péché. Et quand vous voyez le sang, vous savez, dans une corrida, il y a un moment où la scène bascule et quand on passe à la mise à mort du taureau, il y a autre chose. On n'est plus dans l'héroïsme taurin, on est plutôt dans cette question du sacrifice.
Mais l'Ecclésiaste, dans ce temps-là, il fait un peu mémoire des sacrifices humains qu'il y avait avant.
Ah non, c'est pas du tout une critique, hein. C'est l'affirmation de la condition humaine.
Je veux dire que dans cette même région du monde,
ah oui, bien sûr.
Il y
a eu aussi des sacrifices humains, ça c'est sûr. Mais là, je ne parle pas de... Ça, à la limite, ça peut s'expliquer dans une vision holiste, hein, d'ailleurs. On sacrifie l'homme pour le grand tout. Là, on est dans la vision vraiment biblique. C'est plus possible. Alors, quelques remarques maintenant sur les conditions matérielles de la corrida. Vous savez que la corrida suppose l'existence d'une race spéciale de taureaux qu'on appelle le taureau bravo. C'est un herbivore plus féroce que tous les carnivores. Et sa violence est une violence défensive pour protéger un territoire. Il est tellement fait pour le combat que nous avons fait des études scientifiques où on a montré que le stress du taureau était moindre dans l'arène, sous la pique, que dans le transport. Quand il est en position d'attaquant, il sécrète des bêta-endorphines qui, d'une certaine façon, le mettent dans une situation de bien-être. Pour le combat. Pour combattre. Donc c'est très mystérieux. Et ce qui est très mystérieux chez lui, c'est que c'est vraiment le plus féroce des animaux, peut-être, de la création. Vous savez qu'au XIXe siècle, on se permettait des choses qu'on ne se permettrait plus aujourd'hui. On a organisé des corridas, en fait, où on mettait des taureaux bravos en face d'animaux sauvages, de bêtes sauvages. Et il y en a un qui est devenu très célèbre, qui s'appelait Caramello. C'est un taureau qui s'appelait Caramello. Voilà ce que dit Florence Delay dans son magnifique petit livre « Œillets rouges sur le sable ». L'invincible Caramello, qui opposait à un lion puis à un tigre, les mit KO en un éclair. 3 semaines après, il prenait 12 piques et tuait 3 chevaux dans la même arène. 3 mois après, tel un dieu, il sortait de l'arène de Salamanque une guirlande de fleurs autour du cou. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à la battre. C'est très mystérieux. Vous savez, on mettait n'importe quelle bête sauvage en face et elle disparaissait en 10 secondes. Hein. Les cornes du taureau, qu'on appelle, vous savez, cette pointe qu'on appelle le diamant, hein, c'est d'une puissance. Voilà. Et rien, aucun animal ne résiste à ça. La deuxième chose qui est la condition matérielle de la corrida, c'est qu'il y ait un élevage de ces toros bravos. Et comme vous le voyez, c'est un élevage tout à fait singulier. Cet élevage n'est pas pour la domestication, mais pour l'ensauvagement. C'est curieux. Vous élevez une bête, non pas pour la rendre manso, domestique, mais bravo, sauvage, furieuse. Et vous savez dès lors, ce taureau va être le plus possible isolé de l'homme et va être dans des grands pâturages, vous voyez. J'y reviendrai, mais vous voyez ici, dans les conditions de la corrida, l'homme apparaît comme responsable pour le sauvage. C'est lui qui préserve le monde sauvage. Le sauvage n'est plus l'opposé du civilisé, mais la fine pointe de la civilisation. Ce que produit encore une civilisation aussi raffinée que la civilisation espagnole. Très en avance sur beaucoup de choses, et notamment sur l'Empire. Et voyez, ça, c'est très instructif pour la crise environnementale. Autre point, je l'ai suggéré, c'est un élevage extensif et non pas intensif. Il y a 1 à 3 hectares par tête qui vivent en liberté, ce qui fait qu'autour des toros bravos, vous avez un biotope extraordinaire. Vous avez pu le voir dans le film qu'on a vu vendredi soir, où des animaux reviennent en multitude. Et donc, alors vous me direz, mais bon, les mansos n'ont pas besoin de ça, mais il y a malgré tout ici une forme d'exemplarité pour l'élevage. Arrêter l'élevage intensif industriel. Ça veut dire, pour nous, manger moins de viande, si on entre dans cette logique-là. Et réserver la viande à des moments festifs, précisément à des moments liés à la mémoire du sacrifice. Enfin, dernier point, condition matérielle toujours, l'arène comme lieu, comme cercle, comme lieu fermé de vis-à-vis de l'homme et de l'animal. Dans un combat inégal, mais équitable. Il ne faudrait pas que l'homme prenne autant de risques que le... Enfin, oui, il y avait égalité de chances de mort. Ce serait monstrueux, la corrida. Alors là, pour le coup, ce serait d'une immoralité absolue. Vous voyez, ici, il y a une rencontre avec une bête. Ce n'est pas une théorie. C'est le combat singulier qui implique une rencontre avec le singulier. De telle sorte que le taureau qui est dans l'arène, il a un nom propre. Il a un prénom et un nom de famille. C'est par exemple, on l'avait vu, lui, Investigador... de Jandia, de la ganaderia, de l'élevage Jandia. Ou alors, celui qui a blessé José Tomás, Navegante de Pepe Garfias. C'est ce taureau-là qu'on accueille et qu'on rencontre. Donc, vous voyez, on sort de la logique aussi tout à fait urbaine, citadine, de dire il y a l'animal, la défense de l'animal. C'est quoi l'animal? Il y a une différence, vous voyez, entre un insecte, une mouche... Non, c'est pas... On est obligé de sortir d'une manière de penser univoque et uniforme. Ça, c'est fondamental. Et on rencontre l'animal. José Tomás va écrire un très beau dialogue avec Navegante, le taureau qu'il a encorné à Aguascalientes. Et il dira, quelques jours après m'être réveillé de ma blessure d'Aguascalientes, j'ai commencé à recevoir la visite de Navegante, le taureau qui me l'a infligé. À vrai dire, au début, cela ne m'a guère réjoui, mais les jours passants, j'ai oublié ma rancune. Une relation de confiance s'est établie entre nous. Nous avons engagé la conversation et sommes même devenus collègues. C'est ça la relation du taureau et du torero, ultimement. Au cours d'une de ces conversations, je lui ai demandé « Pourquoi t'es-tu retourné sur moi de façon aussi imprévisible ?» Sa réponse: parce qu'il te fallait payer encore une fois pour tout ce que nous, les taureaux, nous ne cessons de te donner. Vous voyez, la gloire. Donc là. J'en arrive à la toute fin. Rassurez-vous. C'est pénible. Une corrida, ça dure 2 heures normalement. Bon, vous savez, je suis désolé. Oui, il y a mise à mort. Aussi. On fatigue la bête. Le point de vue ici, c'est pas d'être pour ou contre la corrida, parce que dans l'absolu, je suis contre la corrida. Mais à considérer notre condition actuelle, je ne suis pas pour, j'y consens. Mais c'est comme si on me demandait, est-ce que tu es pour la mort ? Ben non, je suis pas pour la mort. Mais Ça fait partie de notre condition, je dois y consentir. Et la corrida est la mise en exergue, en scène, si vous voulez, de notre condition dramatique, dans ce qu'elle a de dramatique. Donc il n'y a pas à être pour, parce qu'on n'est pas pour la mort, pour la blessure, pour le sang, on n'est pas pour ça. Mais il est important de le voir et d'apprendre que c'est ça notre condition. C'est pour ça qu'Orson Welles disait de manière très juste, la corrida est indéfendable et irrésistible. Elle est indéfendable en tant que telle, comme le péché originel est indéfendable, si vous voulez. Mais inévitable comme lui, puisqu'il a eu lieu et qu'il développe historiquement ses conséquences. Donc vous voyez, on est à l'opposé de l'utopie transhumaniste ou animaliste qui voudrait l'abolition de la mort, l'abolition d'une violence naturelle, qui implique en retour d'ailleurs que ceux qui résistent à cette abolition apparaissent forcément comme des cruels. On est dans quelque chose qui est aussi un consentement à notre condition. Et vous voyez, aujourd'hui, à mesure que se développent des utopies qui veulent sortir de ce consentement à notre condition, la charité apparaît de plus en plus sous les dehors de la cruauté. Et si vous voulez faire, on vous propose l'immortalité pour votre enfant, vous êtes un bon chrétien, vous allez dire non. C'est cruel. Imaginez, je vous propose l'immortalité transhumaniste. Vous voyez, et c'est la même chose, vous voyez, c'est ce consentement à une condition où on accepte une blessure. Parce que c'est une pensée de la création blessée et graciée qui consent à la blessure parce qu'on sait qu'à travers cette blessure va passer une autre lumière. Alors, l'art de Toreé n'est pas espagnol, comme le dit José Bergamín. Il est interplanétaire. Et c'est un art qui saute par-dessus toutes les barrières. Et je vais vous donner pour finir 7 raisons en lien, et je vais le passer très très vite. Vous lirez le livre que j'écrirai à ce sujet chez Vincent. La première chose, c'est que la corrida va contre le romantisme de l'utile. Phrase de José Bergamín encore, hein, grand maître pour penser la corrida. On est au-delà de la question de l'utilité, on est dans hors la rentabilisation de tout. C'est la mise à mort du veau d'or aussi. Deuxièmement, la corrida est dans la primauté de l'intelligence sensible. Il dit hein, aussi, José Bergamín, que les morales utilitaires repoussent la corrida ou le toreo parce qu'il n'est qu'intelligence jusqu'à la cruauté, parce qu'il refuse expressément toute conséquence pratique et morale. En fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'intelligence humaine face à la force brute, mais aussi face à la peur. Et vous voyez, au lieu d'opposer dans la peur une force à une autre force, on oppose l'intelligence, l'art, le leurre, le jeu magique du poignet, comme dit Hemingway. À l'origine, vous savez que dans les corridas, il y avait, avant la révolution de Belmonte et Joselito, 1920, c'était la logique, le taureau fonce sur toi, tu t'enlèves. Si tu t'enlèves pas, c'est le taureau qui t'enlève. Et puis, il y a eu cet art vraiment de David contre Goliath, vous voyez, où on reste en face et on fait dérailler le train. Et vous voyez, tout marche par esquive et par feinte. Et il s'agit de cette charge rectiligne de la courber autour de soi. Et c'est une œuvre d'intelligence. Quand vous voyez vraiment une corrida, vous avez une œuvre d'intelligence sensible face à la force brute en tant que brute et qui doit rester brute. Ce n'est pas un matériau qu'on affine progressivement ici comme dans la sculpture. Donc c'est vraiment une situation étonnante pour l'intelligence. Troisièmement, la corrida s'accomplit dans ce qu'on appelle le temple. Le temple, c'est le moment où les passes les passes du torero s'accordent au rythme de la charge du taureau. Et tout d'un coup, on voit comme une danse qui se fait où la bête et l'homme sont parfaitement accordés. Et voyez, vous êtes dans une situation qui est ni celle du stoïcisme, ni celle du modernisme. Parce que c'est une situation qui est à la fois harmonique et agonique. Il y a une harmonie, mais l'harmonie ne nous fait pas oublier la lutte. Et dès lors, avec ce foulard rouge, on va tracer un labyrinthe aérien pour le Minotaure. C'est intelligent, ça. J'ai entendu la parole de Galilée que reprenait Olivier. Sans les mathématiques, tout n'est qu'une errance vaine dans un labyrinthe obscur. Eh bien, la corrida, elle, reproduit l'errance vaine dans un labyrinthe obscur. C'est très important. Et c'est pour ça, le quatrième point, c'est que dans la corrida, on voit l'irréductibilité du drame et du tragique dans la relation à la nature. Cinquième point, la corrida est un dispositif de gloire. C'est-à-dire qu'il manifeste la primauté de la gloire sur toute forme d'utilité ou de conservation. Le matador ressemble beaucoup au paon. Son habit de lumière, vous voyez, comme les ocelles du paon. Sa cambrure, presque ridicule. Et cette manière de se mettre avec même le sexe en avant, quasiment, et puis avec ses pantalons moulants, vous voyez de quel côté il la porte, comme on dit. Et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oui, mais attention, c'est une exposition. Il met toujours la jambe en avant et le corps en avant, plutôt qu'en retrait. Et donc, c'est une manière de s'exposer. S'exposer, ça a le double sens de se faire voir et de se présenter à la corne. S'exposer, c'est le double sens de se montrer et de se risquer. Et les deux vont ensemble. Et vous voyez qu'ici, on est au-delà de la logistique de la conservation de soi. Il y a une primauté de l'exposition de soi, et la conservation n'a de sens qu'en vue de cette exposition. J'en verrai à la vision du vivant telle qu'elle est présentée par Portman, mais qu'a aussi suggéré Olivier. Et la gloire ici, c'est une double gloire. La gloire du torero et la gloire du taureau. Vous savez qu'il y a deux catégories, et parfois vous pouvez être les deux, d'aficionados, les toristas et les toreristas. Voilà, nous ne sommes plus que des touristas, ce qui n'est pas pareil. Mais le vrai homme, il est soit torista, soit torerista. Ou alors, il peut être aussi terroristas, voilà. Donc vous avez le choix entre être touristas ou terroristas, qui est le grand partage postmoderne, mais vous avez aussi, vous voyez, le torista, c'est-à-dire celui qui dit que ce qu'on veut voir, c'est un bon taureau d'abord, et la bravoure d'un taureau. Et le torerista, qui veut dire ce qu'on veut voir, c'est un bon torero. Mais quand vous connaissez les corridas, vous voyez qu'il n'y a pas de bon torero sans un très bon taureau, parce que sinon, ça devient ennuyeux à mourir. Et d'ailleurs, ça finit vraiment par la mort, une mort précipitée. Et vous voyez, double gloire, la bravoure du taureau, et de l'autre côté, le courage et l'art du torero. Son aguante, sa manière de tenir face, son temple, sa manière de faire une faena qui va être magique d'une certaine façon. Et vous voyez que la reine est un dispositif typique de la gloire, un dispositif à trois thèmes. Pour qu'il y ait la gloire, il faut qu'il y ait péril. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, vous le savez. L'homme qui s'expose courageusement au danger d'un côté. Mais de l'autre, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour le voir et pour le chanter. Or, vous avez trois protagonistes dans la reine qui ont autant d'importance. Le torero, qui n'est jamais seul. Le héros, c'est un héros avec une communauté avec lui, la fraternité de l'anneau. Il a sa quadrilla avec lui, le picador qui va tasser la charge pour lui, qui va pouvoir qu'il puisse faire sa faena à la fin. Mais vous avez le torero, vous avez le taureau, bien sûr, et vous avez le public. Alors là, le public est vraiment très, très important. Et d'ailleurs, le torero s'expose à la corne du taureau et aux huées du public. C'est un des seuls lieux quasiment artistiques, c'est pas de l'art vraiment, mais c'est un des seuls lieux où on peut huer quelqu'un, et je peux vous dire, les huées d'un torero sont plus fortes dans l'arène qu'à l'extérieur de l'arène par les antitaurins. Les antitaurins, c'est de l'insulte. Ça vous marque pas, on vous dit que vous êtes un sadique, etc. C'est pas vrai. Mais les huées à l'intérieur, c'est vraiment vous êtes démoli. On vous démolit pour une bonne raison. Et c'est terrible. Et cette gloire, vous voyez, la gloire, c'est pas l'exploit en tel. La gloire, c'est l'exploit tel qu'il retentit par les autres. Donc c'est le public qui porte la gloire. Et ce public, dans l'arène, il est divisé en deux fois deux parties. C'est très intéressant. Vous avez deux parties de l'arène, sol et sombre. La partie à l'ombre, c'est les places les plus chères. Et la partie au soleil, c'est les places moins chères. Mais en plus, vous avez le haut et le bas. Plus vous êtes haut, c'est moins cher et plus c'est bas. Donc vous voyez, le pauvre, c'est celui qui est le plus en haut et le plus au soleil dans une arène. Vous réfléchissez à la phrase que je viens de dire, vous voyez, c'est très intéressant. Hein. Ben oui, mais c'est un paradoxe. Et ce sont les pauvres qui vont faire les héros. Parce que ceux qui sont à l'ombre en bas, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Alors ils applaudissent comme ça. Ils sortent leur petit mouchoir comme ça. Mais les pauvres, le peuple, il est furieux. Et alors c'est lui qui va dire. Et on devient héros par le peuple. Non, c'est ce que disait Ignacio Sanchez Mejías, justement, à ce sujet. Que ça a été l'invention d'une noblesse pour le peuple, par le peuple, dans un combat face à la bête. Sixième point, la corrida est, comme je l'ai dit, à la limite du sacrifice, et même à la limite, parce que ce n'est pas un grand prêtre, hein, le torero, c'est un belluaire, il faut se souvenir que c'est un belluaire, un combattant. Mais on est aussi à la limite du païen et du chrétien. Hein, la corrida n'est jamais un spectacle chrétien. C'est encore, vous voyez, quelque chose qui a un résidu de paganisme. Mais on se demande si ça n'est pas le paganisme lui-même qui est comme représenté et mis à mort à la fin. Mais je ne veux pas m'attarder sur cette question-là. Je vais conclure, parce que j'ai pris quand même beaucoup de temps, 1h45. L'art de torer, au fond, et c'est ce que disait encore Ignacio, c'est l'art de Don Quichotte. En tout cas, aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'art de Don Quichotte. C'est comme si vous vouliez charger à la lance une centrale nucléaire. Pourquoi réserver? Pourquoi continuer avec les arènes? C'est qu'une espèce de déni devant l'emprise technocratique. C'est affirmer la chevalerie à l'ère du bulldozer. Et à côté de vous, vous avez toujours un ami qui est un Sancho Panza, utilitariste, qui est utile, hein, bien sûr, mais qui vous dit « Non, mais attendez, c'est quoi la réalité de tout ça ?» Sancho Panza dit... Ignacio Sanchez Mejías, c'est l'amertume qui adhère au triomphe de Don Quichotte, la hache qui lacère toutes ses joies et toutes ses illusions. Eh oui, il faut revenir à l'utile, il faut revenir à... Et il faut qu'il soit là. Mais vous voyez, la corrida nous manifeste quand même, dans ses conditions matérielles et dans sa forme, le lieu d'une responsabilité pour la création et d'une responsabilité dramatique. Dramatique parce qu'on reconnaît que ce rapport implique le combat et la mort. Tragique, parce qu'on est voué à l'extinction et qu'on n'a pas d'autre choix qu'un cri d'espérance théologale, mais un tragique donc de la création graciée qui passe tout entière par la mort pour entrer dans la gloire de la résurrection. Je vous remercie.